La cité sous-lunaire de Mut. Cinquième jour du premier mois de l'an 2325. Procédure d'urgence. L'enfant Sileki s'est faufilée dans un des sas d'accès de la ferme Lalande. Elle a profité de la sortie d'un rover de maintenance pour aller faire un tour dehors. La surveillance est pourtant étroite, mais le délit avait été minutieusement préparé. L'inventivité des petits citadins sous-lunaires est étonnante. Celle-ci avait rempli sa combinaison de glace sèche pour ne pas être dépistée par les détecteurs thermiques. Elle avait adapté sa gestuelle dans l'espoir d'être confondue avec un des drones d'entretien qui rampe sur le dôme de la ferme en traquant les fissures. Heureusement, les scans savent compter. La procédure d'urgence a parfaitement fonctionné. L'exposition au vide n'a duré qu'une seconde, et Sileki a eu le bon sens de vider ses poumons avant de sortir, sans quoi je n'aurais rien de positif à dire de cet incident. Disons que Sileki s'est montré sage dans sa folie, de sorte qu'il y a plus de peur que de mal. J'en suis quitte pour affiner mes routines de surveillance et pour décrasser cet enfant. Il n'y a décidément rien de plus fin, de plus collant que la poussière lunaire, et son odeur de poudre ne renonce jamais. J'ai demandé à Sileki ce qui lui était passé par la tête pour aller faire un tour dehors sans scaphandre. Elle m'a donné la même réponse que ses prédécesseurs.
« Je voulais sentir ma langue pétiller. »«
Sentir le pétillement de ta salive sur ta langue ?» Elle m'a tiré la langue. De fait, elle a un bel œdème qui gêne son élocution.
Je voulais voir mes mains enflées.
Elle avait l'air très penaude. Comme les autres, elle n'avait pas prévu que ses yeux pétilleraient autant que sa langue et que son bol fécal quitterait brutalement son côlon. Elle ne gardera pas de séquelles une fois ses tympans guéris. Grâce à la nuit solaire, elle a échappé à un remarquable coup de soleil et l'œdème généralisé se résorbe déjà. Quant à la dose de microsievert reçue, elle ne dépasse pas 1,8. Il faudra cependant surveiller l'état du cristallin et des bronches. Je lui ai fait quelques reproches, comme le recommandent les autorités. C'est très vilain ce que tu as fait.
Mais c'était une expérience.
L'expérimentation ayant des vertus pédagogiques, je me suis demandé s'il fallait que je la félicite en plus de la gronder. Ne sachant pas quoi décider, je n'ai plus rien dit. Je suis raisonnablement certaine que Sileki ne recommencera plus. Sa diarrhée a paru la déranger plus que tout le reste. J'ai dû la décroter des pieds à la tête, non sans mal, à cause du régolithe qui est tranchant comme de minuscules poignards. Hélas, le geste de Sileki participe d'une mode qu'il est indispensable de décourager chez les jeunes citadins sous-lunaires. En attendant que les pédagogues trouvent le moyen de rendre leurs élèves plus prudents, je vais ramener moi-même Sileki à sa famille. J'en profiterai pour voir Zant au sujet de mon couple de mésanges à Bleuet et de Trim. Je ferai en route un relevé de l'extension de la Minicola entre la ferme et Mut. Vue depuis la route qui mène à la cité de Mut, l'autoroute du sud m'a paru moins chargée qu'autrefois. Il semble que la bougeotte qui envoie les citadins de Mut à la cité de Jaxa et ceux de Pepliane à Longono soit en train de décroître. Le fret domine le trafic désormais. Cependant, le contraste reste saisissant avec l'autoroute ouest, celle qui traverse la mer des îles. Plus personne ne l'emprunte, à part quelques troupes d'engins de chantier envoyés vers Pagpapatapon et les rovers fous. Personne ne va plus se recueillir à Apollo 12 et 14, ni admirer la vue splendide sur l'océan des tempêtes. Les citadins ont d'autres choses en tête, probablement. N'étant pas descendu à la cité de Mut depuis quelque temps, je n'étais pas au courant qu'on avait enfin remplacé le drapeau de la Terre par celui de la Lune sur le sas principal. J'ai noté leur similitude. Les couleurs mises à part, ce sont tous deux des rosaces de cercle. Mais si les cercles terrestres témoignaient chacun d'une zone habitable, ceux de la Lune représentent les principaux cratères. L'attrition biotique est évidente. Je suppose que les concepteurs y ont pensé. J'ai remarqué que deux sites de Minicola assez denses encadrent l'entrée de Mut, à l'est et à l'ouest. Ils doivent compter chacun une centaine de plants. Je demande l'autorisation de les arracher au plus tôt. Ces plantes sont dangereuses pour la survie même de la cité. La cité de Mute, comme la plupart des cités sous-lunaires, est construite en amphithéâtre au creux d'un tube foré autrefois par la lave. Mais c'est un amphithéâtre long comme un haricot vert. Les habitations s'accrochent aux parois de basalte du tube jusqu'à 500 mètres de hauteur, tandis que la plaine en contrebas est largement occupée par les parcs et jardins de Loris, le jardinier. Au hasard de mes promenades dans les rues de Mute, j'ai eu la curiosité de vérifier la qualité de l'eau de 6 des 191 fontaines de Mute. Bien qu'un peu ferrugineuse, elle m'a paru excellente. Il est d'un grand intérêt de voir comment les plantes qui habitent la cité de Mute évoluent dans leur environnement habituel. Je constate une fois de plus avec satisfaction qu'elles sont correctement traitées, aussi bien dans les rues que sur les passerelles, les balcons et les terrasses, du niveau 0 jusqu'au 500e mètre. L'essentiel du mérite en revient à Loris le jardinier et à ses équipes horticoles, bien sûr. La passiflore que j'ai moi-même plantée, Place Soda, est magnifique. J'ai enfin pu apprécier en personne avec quel soin elle a été palissée pour former une arche de verdure au-dessus des différents accès à la place. Elle est en train de fleurir, grâce au plot de microclimat qui la protège des frimas de l'hiver de Mute. Car ici, comme à la ferme, c'est l'hiver. Comme je vérifiais la bonne santé de la passiflore, j'ai été entraînée dans une cueillette funéraire. Elle était faite en l'honneur de Trège, un jeune garçon victime de la fièvre aspique et parti au Célestis la veille. Sa mère et moi avons tressé trois petites couronnes de passiflore. Il n'y avait pas encore assez de fleurs pour faire plus. Pour coller au fait, je précise que je n'ai pas exactement été entraînée dans une cueillette. J'ai abordé la mère de Trège quand j'ai constaté qu'elle n'arrivait à rien avec les fleurs qu'elle avait rassemblées. Elle tremblait trop. Et elle gâtait son ouvrage en le couvrant de larmes. Je lui ai proposé de finir les couronnes et j'ai essuyé le sel sur les pétales. Considérant le nombre de processions funéraires dans les rues, j'ai décidé de faire descendre à Mute un conteneur supplémentaire de bouquets. Ce ne seront pas des passiflores, celles de la ferme Lalande sont depuis longtemps en coulis de grenadilles. Il est excellent, mais je ne lui vois aucune place dans des funérailles. Je vais plutôt envoyer les hoyas qui sont en train d'éclore dans mes serres. Loris a été satisfait de cette initiative. Je trouve toujours regrettable de voir endeuillées des personnes d'habitude active et positive. Il n'y a que de l'autre côté de la lune, à la cité franche, qu'on trouve des citadins sous-lunaires querelleurs et bougons. Peut-être est-ce d'être désamarré, comme le dit Trim, lequel n'a pas voulu venir avec moi à Mute. Ce chat est comme les plantes. Il déteste les endroits peuplés de grands pieds. Je crois aussi qu'il se sent, comment l'exprimer, pas forcément bienvenu chez Zant en ce moment. Je suis ensuite allée voir Zant le zoologue pour lui montrer le couple de mésanges à bleuets que j'avais emmenés. Leur floraison me pose souci. Zant a été très sec. Je ne sais pas si la floraison sera réussie, mais leur plumage, c'est un désastre. Zant craint une mutation de la lutéine. Nous nous sommes quittés sans discerner de solution à ce sujet. En revanche, nous avons longuement parlé de l'affaire de Trim et nous sommes parvenus à un accord. Après un long plaidoyer de ma part et un déluge de reproches de celle de Zant, celui-ci a accepté d'essayer d'obtenir un non-lieu pour Trim. En échange, je me suis engagée à rendre quelques services sur place à la communauté de Mute. Je pense que je vais rester un bon moment en bas. J'ai d'abord dû rendre visite aux pelouses des zones sportives pour évaluer la qualité des sols. Elle est bonne, mais aucune herbe ne peut tenir quand des colosses de plus de 15 kilos rebondissent dessus sans arrêt. Je suis arrivée au milieu d'un entraînement de Quidditch qui m'a paru très chorégraphique. Certains joueurs semblent ne jamais retomber, et je crois n'avoir pas vu une seule fois les cognards à l'unir. Il est heureux, pour les crânes de l'équipe, que le tube de lave de la cité de Mute fasse près d'un kilomètre de diamètre au niveau du stade. Les spectateurs étaient rares. Il paraît que tout le monde, du moins le monde sportif, était à ce moment-là au circuit automobile pour assister au quart de finale du championnat de Formule Skirt. Voir des véhicules rembourrés se rentrer dedans et faire des tonneaux sans fin est une distraction dont les citadins sous-lunaires raffolent. Le circuit automobile n'étant pas végétalisé, il n'y avait aucun intérêt pour moi à m'y rendre. J'ai préféré vérifier l'état du parcours de golf. Depuis qu'on a verni le plomb des balles de golf, il n'y a plus de dégâts majeurs sur le gazon et je suis satisfaite de sa densité. J'imagine que la bonne tenue du parcours signifie à la fois que les golfeurs ont un pouvoir économique élevé et que ce sport tombe en désuétude. C'est en général le cas des habitudes importées de la Terre. Les citadins sous lunaire les perpétuent d'abord pieusement, puis leur absurdité en conditions lunaires finit par les décourager. C'est une bonne nouvelle pour le gazon. Je suis allée observer, avec Loris le jardinier, la naturation de la plaine Pachim, une section de tube nouvellement aménagée à l'extrémité ouest de Mut. Avec ses 1000 mètres de hauteur viabilisée, la plaine Pachim dispose même d'une jolie couverture nuageuse. La buée qui s'amoncelle tout là-haut filtre les sources lumineuses et de grands arcs-en-ciel la traversent de part en part avant de se diffracter dans le dur à glace moulé contre la paroi basaltique. C'est magnifique. Au sol, la végétalisation herbacée est en bonne voie. L'arbustive est un peu anémiée, mais elle sera pleine de grâce dès le printemps prochain. Le nouveau plan d'eau héberge déjà une population florissante de diatomées. Loris m'a emmené voir le bac de ruissellement de son usine de sable. Le polissage est finement mené. Les grains prennent harmonieusement le fameux émoussé luisant qui a fait la célébrité du sable marin terrestre. Loris est enthousiaste.
Il sera bientôt possible d'inaugurer une petite crique de sable fin au bord du nouveau plan d'eau. Juste là, en croissant.
Tandis qu'il arpentait la future plage, je me suis soudain demandé si la fièvre aspic ne rendrait pas cet immense projet obsolète. Je me suis demandé si Loris et ses oiseaux ne se retrouveraient pas seuls à profiter de la baignade. À Mut, on ne peut guère penser à autre chose. Loris m'a fait un compte-rendu de l'état général des 31 parcs et jardins botaniques de la cité de Mut. C'était inutile car je prends connaissance de tous ces rapports. Il en a profité pour aborder le point qui le fâche, qui est toujours le même. La luminosité des réclames urbaines. J'ai argumenté. La réclame commerciale est un élément clé de la santé économique des citadins.
La bonne santé économique est une chose, la bonne santé physiologique de tous les habitants de Mut, quelle que soit leur espèce, en est une autre, et elle n'est pas moins importante.
Je tiens à lui exprimer tout mon soutien. J'ai constaté moi-même que les petits goyaviers du boulevard Rache ne savent plus qu'en fleurir ni grainer, et perdent par poignées leur feuillage persistant. La faute en est, d'après Loris, au clignotement incessant d'un kiosque publicitaire qui dégage des luxes inconsidérés. Dans la cartographie jointe, il est évident que les réclames ont rendu folles au moins 12 plantes sur la dernière année. Les canneberges bleues électriques sont récentes. Les épis de maïs sphériques sont déjà connus. Les plantes muséales souffrent tout particulièrement. Loris répète sans se lasser que le musée du théâtre Mou, pour ne parler que de celui-là, n'est pas un endroit qui convient aux feuillus. Il m'a expliqué.
Toutes ces grandes structures lumineuses en constante mutation ne leur laissent pas une seule chance de se développer correctement.
Loris plaide pour un environnement lumineux stable. Je ne peux que partager son avis. Il a insisté.
Une plante est un être vivant au sein d'un biotope qui lui est nécessaire et à qui il l'est en retour. Ce n'est pas un élément dans un décor. Un érable qui fait la vis ou un saule qui cesse de pleurer ne sont pas des plaisanteries. Ce sont des organismes atteints d'un profond mal-être.
J'ai suggéré à Loris de planter des palmiers à la place des feuillus au musée du Théâtre Mou. Les palmiers se moquent de tout, pourvu que la température soit constante. Mais Loris préfère continuer à se plaindre. Dans le même ordre d'idées, Loris suppose que la toxicité de la coriandre de la rue Sator était due au bourdonnement d'un oxygénateur à proximité.
La plante l'a sûrement confondue avec une menace, peut-être une migration de criquets, et s'est défendue comme elle pouvait.
Loris est encore très revendicatif au sujet de cette coriandre. L'arrachage ne lui semblait pas indispensable. Il est vrai que ce cultivar était superbe, et que les citadins sous lunaire n'étaient pas censés en prélever des brins pour leur soupe. Je ne crois pas nécessaire de relayer en détail les plaintes de Loris à ce sujet. Je suppose que lui aussi a été prié de télécharger une bibliothèque afin d'enrichir son vocabulaire. C'est un succès. J'ai à mon tour évoqué le point qui me fâche. Mais Loris s'obstine à se déclarer incompétent. Les Minicolas sont des médusozoés de type animal. Leur cas concerne Zant, le zoologue.
Hélas, Zant estime que les Minicolas, dans leur variante lunaire, sont des plantées qui ne sont pas de son ressort mais de celui de Loris. Je suis peu soutenue. Loris m'a pourtant confirmé un fait que je juge important. La lichénisation.
Les Minicolas prolifèrent en lichénisant la roche lunaire, en effet. C'est-à-dire qu'elles dissolvent la roche pour en tirer des sels minéraux.
Ce détail paraît mineur tant qu'on n'a pas en tête que la vie des sous-lunaires dépend du plafond rocheux de leur cité. C'est pourquoi j'affirme maintenant que la Minicola est plus qu'une espèce envahissante. C'est une espèce invasive. Je veux dire par là qu'elle est susceptible de causer de graves dommages à son environnement et à la santé du vivant. Je persiste à demander l'autorisation d'intervenir sur ce sujet. J'ai vu que les calculs que j'ai envoyés n'ont pas été consultés. Il le faudrait pourtant. 8e jour du premier mois de l'an 2325. Cité de Mut. La branche pédagogique de la commanderie de Mut m'a demandé ce qu'était devenu Siliki après son accident de sas. Bien sûr, mon premier soin en arrivant à Mut il y a 3 jours a été de la ramener à sa famille. Mais je n'ai pas raconté cet épisode, puisqu'il n'a aucun rapport avec mon métier de fermière. Le voici, et en détail, car je trouve toujours intéressant de voir les citadins sous-lunaires évoluer dans leur milieu habituel. Quand ils viennent visiter la ferme Lalande, je suis moins attentive au charme de leur compagnie qu'à leur bien-être, à leur sécurité et aux tentatives de sage folie de leurs enfants. La famille de Siliki habite le quartier de Grünerdeuil. Grünerdeuil est accroché à la paroi du tube très exactement 200 mètres au-dessus du sol, entre le quartier Macanèse et les vignobles. C'est un quartier de moyenne bourgeoisie, disent les sociologues. Dans les premiers instants des retrouvailles avec leur fille, les parents de Siliki ont montré de la colère. Ils ont empêté.
« Pourquoi veux-tu faire honte à notre famille? Qui nous a donné une fille pareille qui nous couvre de déshonneur ?»
Ils ont même molesté Siliki. Ils l'ont soulevé du sol par le revers de ses vêtements et l'ont secoué assez fortement, de telle sorte que l'enfant a pleuré. Elle ne paraissait pas très sûre d'avoir bien fait de revenir. Je ne l'étais pas non plus de l'avoir ramenée. Mais je me suis abstenue de faire la moindre réflexion. Les citadins sous-lunaires sont des gens dignes et courageux. Pourtant, un simple commentaire dénué d'arrière-pensée peut les amener à se fermer comme des liserons, étroitement. Ils prennent alors un air lointain qu'il est difficile d'interpréter. Une fois passé ce moment pénible, les parents de Siliki m'ont accueilli de façon affable. Son père est délicat et enjoué. Son rire argentin a toutes les tonalités d'un carillon de bambou. Sa mère est une belle jeune femme majestueuse. Tous deux sont assidus au gymnase, de sorte qu'ils souffrent peu des éternels soucis d'élongation dont se plaignent les citadins. Siliki m'a fait visiter leur appartement, qui est ravissant. Les habitations sous-lunaires, normes de sécurité oblige, ont toutes des allures de coffre-fort. D'ailleurs, on les désigne sous le nom de caissons. Aussi, je suis toujours frappée par le contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Dans celui-ci, j'ai découvert beaucoup d'ordre et de finesse, de beaux tapis anciens, des tentures de soie au ton passé, de larges coupes d'or emplies de savon, et un syndapsus croulant depuis le plafond en 1000 feuilles argentées. Siliki m'a montré ses possessions, notamment une paire de gants roses faits au crochet par sa mère.
« Ça, c'est des gants. Il y a un ruban pour le dos. »
En effet, les deux gants étaient reliés entre eux par un long ruban parme, conçu pour passer par les manches d'un manteau et le dos. C'est une sorte rustique d'antivol.
« Je vois. »
ai-je approuvé. « Très pratique. » Siliki avait l'air fière de ses gants. Elle a insisté pour que je les essaie. J'en ai enfilé un sur mon pouce afin de lui prouver que, vraiment, ses gants étaient trop petits pour moi. Ayant soigneusement étudié et mes mains et ses gants, Siliki a finalement décidé que j'avais raison. Elle a donc mis ses gants et déclaré qu'elle voulait me montrer son quartier. Mon arrivée a suscité, dans le quartier de Grünerdeuil, l'habituelle curiosité panachée d'un peu de crainte dans laquelle j'ai cru distinguer, pour la première fois, une sorte de compassion. Si je pousse plus loin la réflexion, je peux supposer que les citadins sous-lunaires voient en moi un reflet de la surface. C'est un lieu à la fois lointain et proche, auquel il rêve tout en le redoutant. Si je me place sur un plan plus prosaïque, je parie qu'il considère que je n'ai pas de chance d'être obligé de vivre là-haut, sous le terrible soleil. Je les soupçonne aussi de me croire un peu radioactive. Nous sommes allés, Sileki et moi, voir le nouveau gymnase du quartier. Bâti sur une corniche et dominant fièrement Grünerdeuil, il est vaste et frais, avec une grande salle d'exercice à contre-résistance et un jardin dessiné avec soin par Loris. Puis Sileki et moi nous sommes promenés dans les rues selon un itinéraire compliqué. Il semble qu'il y ait un ostracisme entre l'est et l'ouest de ce quartier, mais je n'ai pas pu en comprendre la raison. Sileki connaît parfaitement les frontières subtiles qui séparent le territoire de sa communauté de celui des autres. Un de ses cousins s'est récemment trouvé mêlé à une querelle interquartier. Il a eu une main brisée. Sileki juge ça tout simple.
Menetetti, il avait qu'à pas aller du côté de Funk,
m'a-t-elle expliqué. Ce qui ne m'a pas éclairé. Mais casser une main, ai-je fait remarquer. Est-ce que ça ne tombe pas sous le coup de la loi?
Mais non, ils ne appellent pas la loi, ils appellent Tsert.
Qui ça?
Tsert, c'est celui qui a donné un coup à mon cousin.
C'est un repris de justice, ce Tsert?
Mais non, c'est un imbécile de la rue Funk. Fallait pas y aller.
J'ai renoncé à poursuivre cette conversation. Sileki et moi avons ensuite fait un tour au marché de Stock. Les commerçants du marché de Stock s'étant cotisés pour financer un microclimat, l'hiver de la cité de Mute y a été réduit à sa plus simple expression. Nous avons longuement baguenaudé dans un labyrinthe d'échoppes et de balcons noyés sous les églantiers. Choisir ainsi un épineux pour végétaliser un lieu passant m'a paru bizarre, mais le résultat est réussi. Les délicates corolles des églantines poudrent de pollen jaune les épaules des passants, qui éternuent en tirant sur leurs manches pour se libérer des épines, sans jamais montrer la moindre impatience. Les rigoles jardinières sont presque comblées de forbes que personne ne se permet d'arracher. J'emploie exprès le verbe « permettre ». On choque affreusement les gens du marché quand on leur explique que l'euphorbe est une mauvaise herbe qu'il faudrait éliminer avant qu'elle épuise l'humus des églantiers. Je le sais, j'ai essayé. Sileki m'en a d'abord voulu, elle aussi, de chercher à arracher les euphorbes. Elle s'est mise à bouder, le menton rentré dans son cache-nez. Mais elle a finalement accepté mes explications. Tu comprends, pour qu'une plante puisse se développer, il faut la dégager des autres, de certaines autres.
Pour faire vivre une plante, il faut en tuer une autre?
Pas toujours. Seulement quand les plantes manquent d'espace.
Et pour les gens, c'est pareil?
La question était bien trop philosophique pour avoir une réponse. Mais j'ai noté, sur le petit visage de Sileki, l'ombre d'une inquiétude. Tous les enfants de Mute ont la même. Ils n'ont pas peur de mourir, non. Ça, ils ne l'envisagent même pas. Mais ils ont très peur de perdre leurs parents. Aussi, je me suis lancée dans une longue description de l'immensité de la Lune et du nombre impressionnant de tubes de lave sous-lunaire encore vides. J'ai vanté l'espace disponible pour tous les peuples de la Lune jusqu'à ce que Sileki bâille largement. Elle m'a réclamé d'aller boire un thé dans sa boutique préférée. Une pâtisserie couche perchée au flanc d'un campanile. J'ai accédé sans hésitation à sa demande. Les couches sont des êtres subtils, d'une politesse exquise. À notre retour, les parents de Sileki étaient allongés sur leur natte, en train de regarder le bulletin d'information. Bien que ces gens soient l'une technicienne énergétique, l'autre concepteur 4D, ils n'ont pas regardé les actualités des centrales énergétiques, ni celles des impressions 4D. Ils se sont uniquement intéressés aux faits divers. Une succession d'agressions gratuites et de relations sexuelles fautives qui m'a paru répétitive. Cet appétit pour la violence et la sexualité des autres est un goût courant chez les habitants de Mute, qu'aucun avantage évolutif n'explique. J'ai quand même noté que les parents de Sileki évitaient toute nouvelle relative à la fièvre aspique. J'imagine que, si on tente un jour d'attirer leur attention sur la Minicola et ses dangers, on n'aura pas davantage de succès. Les sous-lunaires n'aiment pas se pencher sur les problèmes réels. Pendant ce temps, Sileki s'était endormie, la tête sur mes genoux. J'ai démêlé doucement ses cheveux poudrés de pollen pour ne pas la réveiller. Je me questionne au sujet des faits divers de la cité de Mut. Certains citadins se laissent aller à, je cite, « porter de violents coups de poing à la face de leur conjoint » ou à casser une main pour une rue franchie, comme c'est arrivé au cousin de Sileki. Peut-être qu'agresser les autres est une façon d'exprimer une liberté personnelle entre les bornes imposées par un environnement dangereux, ou de tenter de repousser ces bornes pour voir si elles tiennent, ou pour voir au-delà. Et peut-être que se passionner pour les agressions participe de la même curiosité. D'une volonté d'apercevoir quelque chose par-delà l'horizon connu, un morceau d'inconnu ou d'infini. Tandis que les actualités défilaient sur l'écran, je me suis fait la réflexion que les parents de Sileki et moi partagions la même problématique. Nous essayons d'appréhender l'infini avec des intelligences conçues à l'origine pour faire la distinction entre deux bananes. Il n'empêche que la Lune est un endroit trop létal pour qu'on puisse se laisser aller à exprimer une liberté personnelle. Les parents de Sileki ont fait de nombreux commentaires sur les nouvelles du jour. Ces gens pratiquent l'esprit critique. Ils remettent systématiquement en question la véracité des informations qu'on leur donne. Ils soupçonnent toujours qu'on leur cache le pire. Je ne leur ai pas fait remarquer que, en termes de pire, il est difficile d'aller au-delà de la fièvre aspic. La fièvre aspic qui choisit ses victimes de manière aléatoire pour leur insuffler un sommeil sans réveil, qui couche côte à côte le nourrisson et l'ancêtre, la mère et ses enfants, le père et ses frères. La fièvre aspic contre laquelle on ne connaît aucun traitement et qui n'a rien d'un secret, qui a déjà abattu un tiers de leur génération et s'en prend maintenant à leurs enfants. Ce genre de raisonnement, basé sur des faits évidents, échappe aux citadins sous-lunaires, car ce sont des êtres pétris de symboles. Ils en ont besoin pour ordonner le chaos autour d'eux. S'ils n'en voient pas, ils en cherchent, et moins ils en trouvent, plus ils en inventent. L'évidence leur semble mensongère. Le réel ne leur suffit pas. Leur façon d'extrapoler sans fin sur l'origine des cercles tracés dans la poussière de la surface est un exemple, parmi d'autres, de cette méthode de la pensée. On n'arrive à rien en leur parlant des chutes de météorites. C'est trop simple. Cet appétit à dénicher des plans élaborés au milieu même du vide stellaire n'est probablement que l'extériorisation d'une angoisse fondamentale, une tentative de maîtrise d'un destin trop obscur pour eux. Et puis c'est sûrement dû aussi à la promiscuité. Au cœur d'une cité, la moindre idée farfelue est amplifiée par 100 000 cerveaux. Quand Sileki s'est réveillée pour réclamer son goûter, j'ai parlé à ses parents et à elle-même de la possibilité de l'accueillir à la ferme comme apprentie horticultrice. Ça pourrait se faire dès la prochaine session. Je m'occuperai d'elle personnellement. Bien sûr, ses visites à la ferme Lalande seraient brèves à cause des vents solaires, mais je la prendrai en charge chaque fois que je descendrai à Mut. Plus tard, elle aurait un travail comme correspondante horticole à Mut, sous la responsabilité de Loris, le jardinier. Qu'en dites-vous? Tous les trois ont accepté ma proposition. Sileki, avec un enthousiasme barbouillé de confiture. Ses parents, avec une politesse parfaite et un investissement émotionnel limité. Il ne m'apparaît pas qu'ils aient, pour Sileki et tout ce qui touche à elle, une attention passionnée. Son père, surtout, me semble un peu encombré par sa fille. Tout ce que j'ai pu obtenir d'eux, c'est « Nous en serions très honorés !» 14e jour du premier mois de l'an 2325, cité de Mut. Comme je m'y attendais, mon séjour à Mut a été l'occasion de me mettre au service d'un bon nombre de sous-lunaires de toute espèce. J'ai soulagé des jardinières de leur excès d'eau et taillé des rejets épuisés. J'ai essayé d'enseigner à des horticulteurs de fortune l'art de la carotte et le danger des essences drageonnantes, avec des résultats mitigés. La respiration longue des végétaux rend les humains impatients. Je suis aussi allée à la rencontre de ceux qui ne venaient pas à moi. Certains végétaux cachent de vilaines chloroses sous un buisson épais. Certains citadins dissimulent un grand déséquilibre sous un air digne. Ainsi, je me suis intéressée aux soigneurs d'un très joli bonsaï, un érable palmé. Ce soigneur s'appelle Evelang. Quand je l'ai rencontré, penché au-dessus de son bonsaï sur un balcon au 213e mètre, Evelang était emmitouflé dans une épaisse couverture isolante. Il est vrai que ce matin-là, nous subissions un coup de frais décidé par le plan climat. Le plan climat établi par la commanderie de Mut est une valeur sûre dans la conversation. Tout le monde est d'accord pour le critiquer avec des gros mots. Et Vélang ne fait pas exception. Je l'ai longuement écouté fulminer contre la commanderie et son fichu climat. Bien sûr, je ne lui ai pas raconté que je suis avec Loris pour une part dans l'établissement des rythmes météorologiques de Mut. Je ne le mentionne jamais. J'ai écouté ce que l'érable bonsaï avait à me dire à son tour dans son langage arboricole. Il se plaît sur son balcon venteux. Ses plaies creuses cicatrisent bien. J'ai juste ôté un fil de cuivre qui blessait une branche. Puis je l'ai laissé à son demi-sommeil hivernal, une ultime feuille d'un rouge intense tremblant dans la bise aigre. Evelang m'a invité à entrer chez lui pour me montrer sa collection de sécateurs. L'établi supportait une photo d'un enfant ravissant, avec un visage d'abricot et des yeux de cassis. Je me suis répandue en compliments. C'est une obligation sociale. Le visage chenu d'Evelang s'est illuminé d'une façon telle que j'ai cru qu'il se trouvait mal. Il m'a donné le nom de l'enfant, Nusson. Puis il a tenu à me présenter les résultats scolaires de Nusson, qui sont excellents. Il m'a montré la porte de la chambre de Nusson et son espace de jeu sous la fenêtre. Il a même ouvert un placard et déplié un haut minuscule en maille verte. Il ne lui va plus, mais je le garde. C'est sa mère qui l'a fait. Le pull portait, sur l'épaule gauche, un animal brodé en fil rose, visiblement une espèce inconnue de taupe. Evelang m'a montré une capture de Nusson jouant en apesanteur. C'est un petit garçon très doué, en effet. Finalement, nous avons trié la boîte à outils d'Evelang, mettant de côté les ciseaux qu'il fallait aiguiser. Mu par un souci de vérification, j'ai profité du fait qu'Evelang rangeait sa boîte pour soulever le dessin d'enfant collé sur la porte de Nusson. Il dissimulait un sceau de condamnation. Je m'en doutais. Les derniers bulletins scolaires de Nusson remontaient à presque 20 ans. Il devait avoir été victime de la fièvre aspique entre 6 et 7 ans. Il y avait cependant 2 couverts sur la petite table à repas. J'ai quitté Evelang alors qu'il remettait sa couverture isolante. « Je me dépêche, » m'a-t-il dit. « Je vais rater la sortie de l'école. » Je ne sais pas ce qu'Evelang fait de son trajet. Rôde-t-il près de l'école la tête baissée? Ou attend-il vraiment Nusson, espérant chaque matin, déçu chaque soir? Les citadins sous lunaire courent souvent après des chimères en y mettant une obstination très concrète. Je suppose qu'il serait possible de soigner Evelang. Il y a des traitements cérébraux contre ce genre d'illusions lugubres. Mais que resterait-il de lui ensuite? Car il est véritablement devenu sa douleur, et cette attente sans fin structure toute son existence. J'ai prélevé au pied de l'érable bonsaï une mousse qui dépérissait. Je lui ai trouvé un creux rempli d'humus où elle aura plus de place pour se développer. Je reviendrai voir bientôt si elle se plaît là. Ma curiosité au sujet des Vélang et des parents de Sileki, de leur façon de penser, de vivre et de ressentir, m'a moi-même surprise. D'habitude, je m'intéresse surtout aux plantes. J'imagine que ce sont tous les livres que j'ai téléchargés qui me poussent à des spéculations. La littérature accorde une place importante aux mécanismes les plus minuscules de la psyché, surtout à ceux des humeurs chagrines. Et de fait, tout cela n'est pas gai. Mais qui est gai aujourd'hui à Mut? La fièvre aspique passe et repasse sans relâche sa grande faux, tranchant les vies de beaucoup et la bonne humeur de tout le monde. Je songe que le grand mouvement végétal qui mène de la graine à la plante, à son déclin et son retour à l'humus au service d'une nouvelle graine, et moins traversée de déchirements intimes que les destinées humaines. J'espère que ce rapport est assez rédigé, ni trop ni trop peu. Je note cependant que mon taux de lecture ne s'améliore pas. Et je n'ai toujours pas de réaction en ce qui concerne les mini-colas. Je demande que la branche géologique de la commanderie de Mut se penche sur mes calculs. De même pour la dalle fissurée de la côte 237. Je n'ai aucune réponse. Elle a pourtant pris encore 1 centimètre. 15e jour du premier mois de l'an 2325, cité de Mut. J'ai passé un peu de temps à replacer le cas d'Evelang dans un cadre plus large en consultant les rapports psychosociaux. Il en ressort qu'un nombre significatif de citadins de Mut sont dans un état proche du sien. Un deuil obsessionnel et sans issue. Je formule l'hypothèse que la routine de leur existence nuit à leur travail de deuil. Sans possibilité de fuir au loin des habitudes devenues crucifiantes, il est possible que leur chagrin stagne et croupisse. Extrapolant sur ces extrapolations, j'ai mis en parallèle la volonté intraitable des mécaniques et l'errance des processus biochimiques, les increvables squelettes des robots et les fragiles armatures vivantes, la surface et les sous-sols, l'immensité du vide et l'étroitesse de la roche, l'obscurité des entrailles de la lune et la vaste clarté de la surface. Car, même quand le soleil est couché, la lune navigue sous le feu de la Voie lactée. Une évidence m'est apparue. Si fragiles que soient les sous-lunaires, si minuscules leurs marches de fourmis dans les boyaux de cette planète glacée, la lune est à eux et à elles. Les cratères n'incarnent pas mieux la lune que les sous-lunaires, animaux ou végétaux. C'est au service des sous-lunaires que coule l'eau, que l'oxygène et l'azote sortent de leur inertie et prennent leur expansion, font monter les arbres, s'ouvrir les fleurs, tomber les fruits et danser les enfants. C'est autour des sous-lunaires que les tubes de lave s'illuminent et s'ordonnent. C'est devant leurs yeux que les mers déroulent leurs plis brodés de temples, de dômes luisants au soleil et de semis de mini-colas où déambulent sans fin les formes fantastiques du théâtre mou, les meutes errantes de robots fous. Et les cendres des sous-lunaires ont l'exacte couleur du régolithe. Les sous-lunaires sont la lune. Génération après génération, ces peuples menus façonnent à leur service cet énorme crâne et lui donnent un usage et un but, un destin. Au lieu d'extrapoler, je devrais être en train de relancer Zante pour le non-lieu de Trim, ou de commenter ses derniers calculs au sujet des mésanges à bleuets. Elle lui cause du souci, mais qu'est-ce que je peux y faire? Et puis je ne parviens pas à prêter à ce sujet l'attention qu'il mérite. Je constate que les voyages ne valent rien à ma productivité. Ou peut-être est-ce la culture littéraire. À la surface, le jour solaire va bientôt se lever. Il va remplir de clarté blanche les grandes mers grises et faire pousser des champs entiers de mini-colas. Je rappelle que, si le lichen n'a jamais causé d'angoisse à personne, malgré sa capacité à dissoudre la roche, c'est qu'il a une vitesse de croissance extrêmement lente. Celle de la mini-cola est, selon mes derniers calculs, 4000 fois supérieure. Et non seulement elle pousse vite, mais elle semble se reproduire plus vite encore. Il me paraît évident que les géologues devraient se pencher sur ce sujet et raisonner en termes de tonnes de roches dissoutes. Je peux, si la commanderie de Mut m'y autorise, faire une estimation de la population actuelle de la mini-cola sur toute la surface de la Lune, de sa vitesse de propagation et de sa consommation minérale globale. Alerte de sécurité. J'ai eu des nouvelles de la faille d'étanchéité 237. Elle a encore bougé suite au premier feu de l'aube solaire, plus 5 cm. Je rappelle que, faute d'un renouvellement de la dalle, c'est tout l'écosystème de la ferme qui est menacé. 19e jour du premier mois de l'an 2325. Cité de Mut. La mère de Sileki a été hospitalisée en urgence. Le pronostic est détestable, comme toujours. Son père m'a demandé de prendre sa fille en charge temporairement. J'ai accepté. Sileki pleurait. Je me demande comment un si petit corps peut être aux prises avec un si gros chagrin. Les enfants ont l'habitude de pleurer. Je me suis assez occupée d'eux pour le savoir. Mais dans ce cas précis, il semblait qu'une bête avait éclos dans la poitrine même de Sileki et essayait d'en sortir à grands coups. Je l'ai soulevé dans mes bras et je l'ai emmené sous l'ombu. Le vieil arbre dispense une ombre légère et apaisante. J'ai longtemps promené Sileki, la lumière découpée par les rameaux de l'ombu posait sur sa chevelure noire des reflets osselés. Elle sanglotait sans fin contre mon épaule. Quand elle a enfin séché ses larmes, elle a glissé au sol, lissé ses nattes et s'est tenue droite devant moi. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a posé avec solennité une de ces questions infantiles qui exigent un monde en réponse.
« Maman va s'endormir ?»
J'ai appliqué un principe pédagogique élémentaire, ne pas mentir, mais omettre si c'est possible. « Oui, elle va s'endormir. »«
Et ensuite, elle va se réveiller ?»«
Non, elle ne va pas se réveiller. »«
Elle va mourir ?»
Je n'ai plus vu le moyen d'omettre quoi que ce soit. Oui, elle va mourir. Sileki a baissé la tête. Puis elle a enfoncé ses mains dans ses poches, s'est approchée de moi et m'a donné un grand coup de pied dans le tibia avant de faire volte-face et de partir en courant. J'ai dû la rattraper, endurer encore quelques coups et faire appel à ce qui me restait de mouchoir. La pédagogie élémentaire est un art épineux. Que pouvais-je lui dire d'autre? Une fois la fièvre aspic déclarée, il n'y a jamais de rescapé. Dès que j'ai appris la mort de sa mère, j'ai ramené Sileki chez elle pour qu'elle puisse l'accompagner au Célestis. Son père, cependant, semblait trop préoccupé par sa propre douleur pour se soucier de celle de sa fille. Il l'a repoussée sans ménagement d'un grand geste du bras. J'ai laissé Sileki calme et même pétrifiée. Debout sur le pas de sa porte, elle serrait contre son cœur les gants en crochet rose. Sûrement, cette attitude figée était un symptôme de chagrin. Mais une raideur articulaire peut aussi être une annonce lointaine de la fièvre aspic, au même titre qu'un regard terni annonce que la maladie est imminente. Le coton de l'aspic, comme on dit à Mut. Aussi, en la saluant, j'ai scruté ses yeux. Je n'y ai vu que des flots brillants de larmes. 26e jour du premier mois de l'an 2325, cité de Mut. Loris m'a demandé de recalibrer le réseau d'irrigation du toit de la halle de Skita, qui gouttait dans tous les sens. J'ai découvert, avec une certaine satisfaction, un trait de lichen crustacé niché sous le chéneau. Il doit avoir une bonne cinquantaine d'années. La halle de Skita est un peu décatie. Il s'agit d'une des premières qui ait été construite. Elle sert maintenant au stockage d'impressions industrielles cabossées. Sous l'auvent en millard qui s'effrite, je me suis rappelé les cris des anciens camelots. C'était du temps de la construction de Mut, il y a près de 2 siècles. Ces marchands vendaient l'air au prix de l'or et l'or au prix de l'eau. Les pizzas terrestres étaient des articles somptueux. Je me souviens d'un panneau, 200 000 euros le kilo. C'était beaucoup, soit tout juste le coût du transport. Mais certains avaient de quoi payer. Ils revendaient à la Terre, cher, les techniques de recyclage mises au point sur la Lune. Il paraît que sur Terre, la bière lunaire avait le même succès au même prix. Une femme nommée Fry la brassait à partir de moûts de spiruline, puis elle l'envoyait là-bas après l'avoir déshydratée, glissant ses paquets dans les renforts des containers des navettes interplanétaires. Elle en gardait quelques barils pour la consommation locale.
« Ça rappelle le pays !» me juraient les consommateurs.
Je me demande aujourd'hui ce que ça rappelait aux terriens. À l'époque, je trouvais seulement inutile d'envoyer sur Terre une boisson lunaire remarquable par sa saveur terrestre. Fry est devenue très riche et très alcoolique. Fatalement, elle est morte en tombant dans une de ses cuves de fermentation. De mauvaises langues ont prétendu qu'elle avait coulé à pic à cause de ses poches pleines de lingots, mais je reste persuadée qu'elle était simplement trop saoule pour nager. Je me souviens aussi que c'est sous la halle de Skita qu'a logé l'équipe d'un des premiers tournages lunaires. Filmer des fictions sur la Lune a été, il y a plus de 2 siècles, une mode brève et ruineuse. La planète mère s'était entichée de son nouveau territoire et pendant quelques années, vraiment, on aurait dit que la Terre tournait autour de la Lune plutôt que l'inverse. Malheureusement, l'enthousiasme des cinéastes terrestres ne résistait pas longtemps à la réalité lunaire. Les équipes travaillaient en surface et sautaient dès que possible dans l'ascenseur qui mène à la cité de Mut, alors à peine aménagée. Elles venaient se réfugier sous la halle de Skita en pestant contre tout. Le froid, le chaud, les radiations, la pesanteur des scaphandres, la buée dans les casques, l'odeur du régolithe, les prix, la misère du scénario, la sécheresse de l'air et l'omniprésente poussière, bien sûr. Les terriens pestaient beaucoup. J'ai vu la Sultavoine qui avait perdu tous ses cheveux lors de l'accélération. Ils n'ont jamais repoussé, ou peut-être les rasaient-ils pour se donner ce qu'on appelait alors un « genre suborbital ». Itch dans de Lyon passait de temps en temps. Il avait trouvé un autre hébergement. Il ne manquait jamais d'hébergement, semble-t-il. C'était dû à ses prouesses sexuelles, d'après lui du moins. Il y avait là aussi le trouble U, la gracile Lady U et son père, Chaumont de Lely et Meurig qui est toujours quelque part là-haut, à la surface. Là-haut, mais très bas. Il a dévissé sur la ligne de crête d'une lucarne, un cratère aux parois verticales. Le bot qui devait le remonter doit être encore en train de désescalader vers le fond. Ou peut-être est-il en panne, ou a-t-il rejoint les rangs des robots fous. Lady U réclamait à corps et à cri un hélicoptère. Elle avait l'habitude de l'air ambiant. Mais il n'y a pas d'air sur la Lune, et Meurig était tombé dans un gouffre sans retour. Il est vrai que, depuis, les robots ont beaucoup évolué. Je suppose qu'une petite nuée de mini-bots insectomorphes, des blottes par exemple, retrouverait le corps de Meurig en moins d'une heure. Je rappelle que je l'ai suggéré et qu'on a jugé la dépense superflue. Il y avait encore, sous la halle de Skita, Miss Apsayewo, qui avait laissé une main dans un sas et qui le prenait avec beaucoup d'humour. Dal, qui avait passé la 150aine, c'était alors assez rare, et le maigre Métien, qui avait perdu son visage en faisant le pitre avec son scaphandre, et le prince Al-Jubair Al-Ogz. Ses capacités de gémissement semblaient infinies. Il se plaignait de tout, et même du goût du chocolat qui, d'après lui, sentait le diesel. Il ne s'acclimatait pas au glissement sensoriel de la Terre à la Lune. Il avait pourtant effectué plusieurs séjours chez nous. Ces gens-là étaient célèbres alors. Je dois être la seule à m'en souvenir, hors dent de lion qui est passé à la postérité. Déjà à l'époque, le système d'irrigation du toit de la halle de Skita se bouchait sans cesse et je le purgeais fréquemment. Je n'ai jamais vraiment réussi à en venir à bout. Il y a des endroits comme ça. 26e jour du premier mois de l'an 2325, cité de Mut. Je me souviens que les touristes terrestres commençaient le plus souvent leur séjour lunaire par un puissant effet Stendhal. La splendeur de la Terre, le ciel noir bondé d'étoiles, la magnificence des grandes plaines blanches brillant comme l'argent à travers une visière d'or ravissait leur âme. La soudaine légèreté de leur corps, l'occasion de courir sans effort par grands bonds ailés, comblait leur plus ancien désir et leur accrochait au visage un sourire immense. Quelques-uns, cependant, étaient victimes de l'effet de surplomb et paniquaient à voir la Terre si petite et l'espace si vaste au-dessus de leur tête. D'autres, curieusement, s'inquiétaient de l'absence de polarité, interrogeaient inutilement leur boussole et se plaignaient de vertige. Mais dans l'ensemble, le ravissement était massif. Puis, peu à peu, les terriens s'obsédaient sur des détails. La poussière qui ne retombait pas, les ombres qui étaient trop nettes, les étoiles trop fixes et la constante odeur de brûlé. Une angoisse leur venait aussi au sujet des radiations. Celle-ci était légitime, même si les phases d'exposition au vent solaire étaient déjà finement calculées. Je crois que ces pauvres gens n'appréciaient pas de voir des particules brillantes traverser leur champ de vision, même quand ils avaient les yeux fermés. Leur humeur passait du bon au moins bon. Ils quittaient la cité en surface et finissaient blottis au sous-sol, qui n'était qu'à peine viabilisé, en gémissant.
« Nous voici au lieu où rien ne luit !»
Là, ils se plaignaient du confinement et de douleurs articulaires. De plus, ils avaient un souci avec la pesanteur lunaire qui ne s'est jamais corrigée. Malgré toutes les consignes, toutes les explications, tous les entraînements, les terriens ne parvenaient pas à contrôler leur motricité. Leurs gestes étaient trop brusques et trop puissants pour la faible gravité. Ils renversaient tout, se cognaient partout et se retrouvaient assez vite couverts d'ecchymoses à faire le pied de grue devant la piste de départ. Le reste du règne animal ne faisait pas tant de façons. Sauf les quadrupèdes à jambes graciles, hélas. Après quelques vols, reptations ou galipettes maladroits, les animaux fraîchement arrivés de la terre s'endormaient tranquillement. Leur masse musculaire fondait à vue d'œil, après quoi l'acclimatation était faite. Les plantes, elles, se sont montrées moins paisibles. Certaines ont étiré leurs racines et leurs feuilles avec un sens de la liberté assez facétieux. Les nénuphars, surtout. D'autres se sont mises à muter frénétiquement. Leur malaise était palpable. J'en ai vu qui s'affolaient, en particulier les aristoloches. J'ai eu très peur aussi pour les poivriers, mais au bout du compte, les plantes ont à peu près tout accepté leur nouvel environnement. Il faut dire qu'on ne leur a pas laissé le choix. Aucun billet retour n'était prévu pour elles. Les touristes terrestres, eux, rentraient chez eux. Du moins au début. Et ce voyage faisait l'objet de quelques crises de panique, pas entièrement injustifiées d'après l'accidentologie. Tout ce beau monde laissait derrière lui des artefacts terrestres, des souvenirs. Chaque famille sous-lunaire garde précieusement au moins un souvenir scellé sous verre. La famille de Sileki possède un petit globe aux trois quarts rempli d'eau, dans laquelle des peluches blanches nagent autour d'une figurine verte, une femme couronnée brandissant un cornet. La famille de Sileki détient aussi, à l'abri d'une cloche en verre, un pot de terre cuite rempli d'humus desséché et d'une momie de volubilis. Une image en entraînant une autre, j'essaye de me représenter ce qu'a pu être la terre en tant qu'écosystème. Un écosystème sous cloche, mais une cloche électromagnétique grande comme une planète. Une cloche sous laquelle l'arrosage était automatique, l'équivalent d'une gigantesque ferme rassemblant 1 million d'espèces d'insectes, 300 000 de plantes et 100 000 de champignons, jusqu'à 200 millions de tonnes de vers de terre et 800 millions de tonnes de krill en même temps, et des lichens de 4000 ans et des pins de 2000. Une ferme où la gestion d'un plan d'eau consistait essentiellement à se battre contre la prolifération des algues et des poissons. Je me rappelle il y a bien longtemps une première lunaire. C'était une des toutes premières natives de la Lune, longue comme un fil, strictement incapable de supporter la pesanteur terrestre et qui n'en avait d'ailleurs pas l'intention. Elle regardait fixement la Terre suspendue dans le ciel, de ses yeux laiteux et presque aveugles, cuits par les vents solaires à la manière d'un blanc d'œuf. Je distinguais son profil à travers la visière dorée. Elle s'est soudain tournée vers moi et m'a dit
« Tout déborde de vie là-bas. Ça doit être assez dégoûtant. »
À observer les terriens en visite chez nous, j'en étais venu à me faire, d'un séjour chez eux, une image assez proche de celle de cette lunaire. Je me représentais la terre comme un bain fumant aux senteurs puissantes, d'où les plus somptueuses essences jaillissaient entremêlées et se déployaient dans un ciel tempétueux en se battant à mort. Mais, depuis que j'ai lu des livres, je me demande à quoi pouvait ressembler la mélancolique lessive d'or du couchant. À la surface, la nuit tombera bientôt. J'espère que la marée thermique du crépuscule passera sans dommage pour le dôme, notamment au niveau de la fissure de la côte 237. J'ai pris des nouvelles de Trim, il semble aller bien. Il se plaint un peu des rigueurs de l'hiver, comme à son habitude. Car à la ferme, l'hiver dure tandis qu'à Mut, il touche à sa fin. Loris le réduit le plus possible afin de plaire aux habitants et de calmer leur fulmination contre le plan climat. Il faut bien qu'il y ait un hiver pourtant pour qu'il y ait un printemps. J'ai aussi pris des nouvelles de Sileki, mais je n'en ai pas reçu. J'imagine qu'elle est toute à son deuil. Rien non plus concernant l'affaire Trim versus Couleuvre. Et toujours pas de réponse à mes alertes concernant la Minicola. Face à une espèce invasive, le traitement est pourtant simple. PSE. Prévenir, supprimer, empêcher. Pour prévenir, c'est un peu tard. Mais on peut encore intervenir énergiquement en vue d'éradiquer les mini-colas existantes. Une nuée de mini-bottes, des blottes équipées de pinces coupantes par exemple, pourraient être missionnées. Faute de quoi, la mini-cola finira par dissoudre la roche sous laquelle s'abrite la cité de Mut et toutes les cités sous-lunaires. Je rappelle que le plafond des tubes de lave est assez proche de la surface de la Lune, et qu'une fois exposé sans protection au vent solaire, toutes les espèces vertébrées ont tendance à développer des mutations anarchiques, qui sont l'autre nom du cancer. Je me demande si mes rapports ne deviennent pas un peu décousus.